Direct
tout
en
va
jeu,
bien.
La Radio Insolite. Toujours, alors qu'on est en plein mois de novembre, toujours en direction, comme dire, d'Avignon, du soleil, de la canicule. Qu'est-ce qu'on va revivre une deuxième fois? Ce qu'on a vécu en 2023, en 2024. Vous savez qu'en plus, on va être juste avant les Jeux Olympiques. Et il y en a quand même qui ont choisi de ne pas aller aux Jeux Olympiques, mais de venir au Festival of d'Avignon en début juillet. Et là, je suis avec... Alors, je ne sais pas comment le présenter. Hein. Accrochez-vous, parce que là, il est auteur, réalisateur, metteur en scène, comédien. Il est aussi, il a été aussi directeur de théâtre.
Bonjour, tout à fait.
Bonjour Hervé.
Bonjour, bonjour. C'est toujours.
Alors,
heureusement que pas tout ça en même temps.
Ouais. Première question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu n'as pas encore fait ou ce que tu n'as jamais fait?
Non, il y a tellement de choses que je n'ai pas faites. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Je ne chante pas. Je n'ai pas fait de mise en scène d'opéra. J'adorerais faire de l'opéra, mais je ne chante pas. Je fais de la mise en scène, mais pas donc d'opéra. J'ai pas réalisé de long métrage. J'ai fait de la fiction télé. Mais voilà, plein de choses. Mais je crois que c'est normal d'avoir envie de faire plein de choses. C'est je veux pas dire la boulimie artistique est nécessaire, mais la création, l'envie de faire, c'est un métier tellement passionnant. Il y a tellement de choses à dire, à raconter, et tout ne se raconte pas de la même façon. Mmh. C'est un peu comme ça que je vois mon boulot. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand j'étais directeur de théâtre, l'ambition a été de dire non seulement je vais programmer des belles pièces, créer de l'émergence, aller chercher des auteurs inconnus, des formes théâtrales surprenantes, mais j'ai surtout dit et pensé qu'il fallait créer un public, attirer un public qui ne venait pas au théâtre, lui donner l'envie de venir, et puis j'ai eu envie aussi de dire quelle est l'ambition, le plus beau théâtre du monde, peut-être que le plus beau théâtre du monde c'est la Comédie Française, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'excellence de la même façon, c'est-à-dire avec des vertus théâtrales, d'auteur, de production, d'accueil du public. Voilà, on a toujours envie de faire des choses. Je crois qu'on fait les choses une par une et les unes derrière les autres en fonction de ses envies, en fonction des opportunités, en fonction des improbabilités aussi de la vie.
D'accord. Alors, on va faire une marche arrière très conséquente. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce métier-là?
Alors ça, je sais pas. C'est peut-être parce que j'avais envie de me faire remarquer quand j'étais enfant et que j'avais des frères. J'avais deux ans de décalage.
Beaucoup la réponse. Là.
J'avais 2 ans de décalage entre mes frères aînés, mes deux frères aînés et mon frère cadet. Donc j'étais un peu au milieu. Les grands, on les appelait les grands, et moi je faisais partie des petits et j'étais déjà dans ma tête un grand. Donc j'étais en décalage. Alors c'est peut-être ça, peut-être. Je sais pas. J'ai envie de faire ça très tôt. J'ai le souvenir de faire ça très tôt, d'avoir envie de faire ça très tôt.
Oui, parce que voilà. Tu as quand même fait une formation de photographe aussi.
Oui, j'ai fait une formation de photographe. C'était le compromis très diplomatique entre arrêter mes études et apprendre un métier que mon père souhaitait que j'aie quand même, à raison. Il dit, mais il faut que tu apprennes un métier, il faut que tu aies un métier. Ma famille n'était pas du tout dans ce milieu. Donc effectivement, c'était un peu troublant parce qu'il ne faut pas croire, les adolescents, même quand on sait très bien ce qu'on a envie de faire plus tard, on ne sait pas le définir, on ne sait pas l'expliquer. Et surtout à l'époque où moi j'avais 15 ans ou 14 ou 15 ans, c'était pas facile. Mon père m'a dit, écoute, fais un lycée technique, fais une école technique. Et la photo était le meilleur compromis, puisque la photo m'amenait au cinéma. J'avais pas le bac, donc et pour cause. J'étais très jeune. Je pouvais pas rentrer à l'IDEC, qui était la FEMIS d'aujourd'hui, à l'époque. Donc j'ai fait une école de photo. Mmh. Et ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a ouvert énormément l'esprit sur ce milieu-là, sur la création, sur ce pouvoir qu'on peut avoir quand on est créatif, imaginatif, quand on est artiste, de se dire, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai pu concilier ces amours. J'adorais le cirque, également, parce que j'étais un gamin émerveillé et que il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a de l'exploit, il y a de la magie. Enfin, le cirque, c'est un pot-pourri de choses épatantes. Et faire de la photo, c'était une manière de faire du cirque, puisque je pouvais photographier le cirque, aller cacher comme ça. Je me souviens, j'ai fait ce qu'on appelait la thèse de fin d'études de cette école. Il fallait qu'on réalise un livre de photos, une sorte de recueil de photos sur un thème donné à l'avance et avec comme objectif qu'il soit le plus possible exploitable commercialement. Enfin, c'était un travail d'élève, hein. Ça n'avait pas d'ambition autre, mais il fallait qu'on s'approche le plus possible d'un travail parfait. Et moi, j'avais choisi comme thème coulisses des pistes rondes. Et je suis parti comme ça avec Pinder, et c'est comme ça du reste que j'ai fait clown après avec Pinder. Un peu. Voilà, ça a commencé comme ça. Photo, cirque, scène, photo, photographie, cinéma, et voilà, la boucle, la spirale infernale était partie.
D'accord. Alors, tu ne chantes pas, mais par contre, tu as rencontré, je ne sais même pas comment présenter le personnage, on est à 7. Et c'est le berceau de Jean Vidard, théâtre, mais aussi de Georges Brassens. Et là, oui. Tu découvres, en fait, un poème d'un père presque inconnu, qui est devenu l'une des plus belles chansons de Georges Brassens.
Exact. Alors ça, c'est une histoire, c'est une histoire qui ressemble un peu à ce que je viens de raconter, c'est-à-dire que l'improbabilité que le poème Les Passantes, écrit en 1911, devienne le succès de la chanson française en 72, comme elle est devenue quand Brassens la chante pour la première fois. L'improbabilité de cette histoire-là est telle qu'elle ressemble, et c'est peut-être ça aussi qui m'a touché, à l'improbabilité qui était devant moi quand j'étais gamin et que je me disais, je rêve de faire ce métier-là. Je rêve de faire comme ces gens qui ont l'air d'être heureux et en faisant ce métier-là et qui partagent. Quand vous êtes gamin, vous savez pas comment avancer. Et encore moins quand on n'a pas dans son entourage familial quelqu'un qui vous guide, qui peut vous emmener, et peut-être même en plus, moi j'avais des milieux très bourgeois parisiens, des gens qui plutôt me disaient, tu sais, ce métier, c'est non seulement pas vraiment un métier sûr, mais c'est pas nous qui faisons ce métier. Et cette phrase, c'est pas nous, ça ne voulait dire quoi? C'est pas nous, parce qu'on n'est pas c'est pas le milieu qui doit avoir accès à ça. On n'a pas, ou c'est pas nous qui avons le droit on n'a pas de droit chez nous. On a des devoirs. Et c'était un peu une notion qui était pas forcément mauvaise. Hein, du reste, je la récuse pas de la bourgeoisie de l'époque, avoir plus de devoirs que de droits. Et disons qu'avant d'avoir des droits, on avait des devoirs. Voilà. Et moi, j'avais envie de tout ça. Et cette improbabilité-là, je la touche quelque part. Et l'histoire des Passantes est une histoire improbable. Qui fait que quand je rencontre Gérald Duchemin, qui avait envie d'écrire quelque chose sur cette même histoire, nos deux envies se sont retrouvées. Et en plus, cette histoire permettait, compte tenu de mon grand âge aujourd'hui, de pouvoir placer un petit peu cette improbabilité qui est celle de la vie. C'est une autre manière de dire aux gens, gardez vos oreilles ouvertes, vos yeux ouverts, gardez les écoutilles prêtes à tout recevoir, quoi. Parce que on ne sait jamais. Tout le monde le pense, c'est ce que je dis à un moment dans le texte du spectacle. C'est tout comme le loto, si on veut gagner, il faut jouer. Voilà. Et jouer n'est pas garanti de gagner. Mais voilà, si tu veux gagner, il faut jouer. Eh bien, si tu veux réussir, il faut rencontrer, mais pour rencontrer, il faut vivre. Donc, il faut vivre voilà. Donc, c'était aussi une autre manière de raconter cette histoire incroyable, improbable, dépassante. Avec l'incroyabilité de la vie et peut-être de nos vies, et je suis même certain de nos vies à tous.
Oui, mais là, tu t'attaques quand même à un monument de la chanson française.
Oui, mais le monument, Qu'est-ce que je peux dire? Un monument, oui, un monument, oui, on le regarde, on l'admire et on s'en inspire. En fait, je ne fais que de m'en inspirer et je ne fais que raconter justement ce monument. Je raconte dans le spectacle que la leçon de ce monument. C'est-à-dire que Antoine Paul, quand il écrit ça, il souhaite que ses poèmes soient mis en musique. Et il y aura 60 ans pour que l'histoire avec ce poème-là, pour que Brassens le fasse. Et effectivement, 1911, quand il écrit ça, il ne sait pas. Brassens, personne ne le connaît. Brassens, on commence à le connaître en 52. On ne sait pas. Donc, il faut croire aux choses. Les choses s'inscrivent dans le temps. Et il faut croire au temps. Le temps, il dure. Le temps qu'on lui donne, j'ai envie de dire. Une autre manière de dire donner le temps au temps, mais le temps a besoin de temps. Sa première qualité, c'est de prendre son temps au temps. Hein? À un moment donné, je le dis dans le spectacle, ce temps qui n'en finissait pas de durer, mais qui nous ouvrait l'immensité du monde. Voilà. Et ce temps-là, ça m'a permis de ce poème, cette histoire-là, m'a permis de raconter l'énorme patience. Cette énorme disponibilité que il faut avoir par exemple dans la carrière artistique. On est talentueux peut-être tous, certainement même, et je souhaite à beaucoup de monde d'être talentueux, mais qu'est-ce qui nous fait réussir? C'est le fait que ce talent soit reconnu. Quelquefois ça prend du temps et tellement de temps. Van Gogh n'a jamais connu sa consécration.
Exactement,
par exemple. Donc, mais pour autant il a peint. Il a peint jusqu'au bout. Il faut croire à ça. Et il faut croire à ça.
Ouais. Toi qui as
touché... c'est ça le monument. Hein, c'est ça le monument.
D'accord.
C'est le temps. Ouais.
Toi qui as touché un plein de choses, c'est un passage incontournable, le Festival d'Avignon.
Alors, jamais rien n'est incontournable, mais on peut dire que oui, c'est nécessaire. C'est de toute façon. De toute façon, c'est une expérience formidable de faire Avignon, et parce que c'est enrichissant. C'est quand même un des rares lieux. Je crois qu'il y a deux ou trois festivals dans le monde qui y en a un en Angleterre. Je sais pas comment il s'appelle au moment où on se parle, mais qui est un peu sur le même principe. Mais un lieu dans lequel vous avez tant de gens qui viennent voir des spectacles, tant de spectacles qui se proposent. Alors on peut dire que ce qui est probablement vrai, même qui est même certainement vrai, il y a trop de spectacles. Mais quel est le lieu au monde où on est capable de voir 5 spectacles par jour?
Oui, exact.
Quel est le lieu au monde où on peut voir ça? Quel est le lieu au monde où on peut se dire allez, j'ai 4 sous en poche, bien sûr ça va, ils vont disparaître, mais je vais montrer ce que je sais faire. Il y a des tas d'aspects qui sont tellement positifs. Alors on ne va pas parler des aspects très négatif du Festival d'Avignon, dans son organisation, dans sa commercialisation, dans son merchandising, etc. Mais le monde est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. On peut critiquer tout, mais on remplace comment? Et ben, remplacer le Festival d'Avignon, ça serait pas facile quand même. Et ça, c'est incontournable.
D'accord.
Je crois. Il y a quelque chose de magique. C'est un public qui est à vous, et c'est à vous d'aller le capter, quoi. C'est nulle part ailleurs vous le ferez. Voilà. Nulle part ailleurs vous le ferez. Quand vous jouez à Paris, il faut avoir une tête d'affiche et un grand théâtre pour que l'espèce de confiance soit établie. On dit on va voir, on ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est dans un théâtre qu'on connaît. Donc, alors on est dans tel ou tel grand théâtre des boulevards, alors on y va, ou dans tel ou tel grand théâtre public et ou scène nationale, alors on y va. Mais Avignon, ça peut être aussi la chance qu'elle a à chaque coin de rue, quoi. Je vais voir, je rentre, un professionnel, un gars qui peut vous emmener ailleurs. Cette fameuse rencontre dont je parle, cette fameuse incertitude, cette fameuse improbabilité, bah, Avignon la transporte aussi. Voilà. Je crois beaucoup à ça.
C'est très joliment dit. Je trouve que c'est très très bien expliqué.
Merci.
Donc c'est direction l'Oriflamme pour de.
Donc c'est voilà, c'est direction l'Oriflamme normalement si tout va bien. Alors c'est tout va bien, donc c'est l'Oriflamme, mais si tout va bien, 19h. L'Oriflamme.
D'accord. Okay.
Voilà, enfin, alors, les contrats sont pas encore tout à fait signés, mais ils sont volontairement en préparation. J'attends beaucoup de ça et je suis très heureux d'aller à l'Oriflamme.
Parfait.
C'est un très joli théâtre. C'est un très joli théâtre. Ce sont des amis en plus. Alors on dit ça. Alors pour les gens qui nous écoutent, peut-être ils disent ah bah oui, c'est des amis. Alors forcément, ils s'entraînent entre eux. Oui, l'amitié fait qu'on s'entraide. Mais je peux vous assurer que entre amis, on est très sévère aussi. Et on ne va pas à l'Oriflamme sans une certaine exigence de la part de leur directeur. Mmh. Et les deux directeurs qui dirigent l'Oriflamme, pour le dire, il y en a un qui est venu grâce à Dominique Lotte. Donc merci à Dominique Lotte, puisqu'il est venu lors de la présentation de presse au Festival 2023 du spectacle, et quand il est ressorti, il m'a dit « mais pourquoi c'est pas chez moi ?» J'ai dit « il fallait que tu le vois avant, voilà, maintenant c'est fait, mais bon, et tu le vois surtout dans des bonnes conditions, donc ce qui aurait peut-être pas été le cas avant, donc merci. Mais écoute, je viens chez toi quand tu veux. Si tu veux que je vienne chez toi, je vais chez toi. Et il me dit c'est formidable, tu vas faire un succès. Enfin, il a été une très belle analyse du spectacle et puis une promesse à ce moment-là très flatteuse. Et son co-directeur Julien Gaffaro est venu quasiment le dernier jour. Et Julien m'a dit, tu sais, ce type de spectacle, c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux, que je préfère le mieux, que si je dois faire une échelle comme ça. Je suis venu parce que Patrick m'a dit de venir, qu'il était très enthousiaste. Donc, je suis venu pour faire mon boulot de directeur, ce qui est déjà énorme parce que des tas de directeurs ne se déplacent pas.
Exact.
Donc hommage à lui, et en sortant il m'a dit écoute tu m'as pris dès le départ et j'ai pas pu m'en défaire, je suis resté jusqu'au bout quoi, et je suis là et c'est parfait, c'est génial. Et il m'a dit un très beau compliment, et il m'a dit c'est un spectacle élégant. Élégant. À partir du moment où vous êtes élégant, vous avez énormément de choses, quoi, qui passent. Voilà. C'est formidable d'avoir dit ça. Je vous remercie beaucoup. Je suis très touché. Voilà.
Eh ben, notez sur votre agenda qu'il faut absolument aller à l'Oriflamme en juillet 2024. Bah oui, il faut prévoir. L'improbable histoire des patientes. J'allais dire l'histoire vraie de cette chanson talentueuse de Georges Brassens. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout
ça. Oui. Je peux rajouter une chose ou pas ?
Tu as le droit de rajouter une chose.
Une chose, c'est que c'est l'improbable histoire des patientes, mais c'est l'improbable histoire de chacun de nous. Je fais le pari que chacun s'y reconnaisse.
Ouais, c'est cette histoire. Tout à fait, c'est très joliment dit comme conclusion.
Ouais, voilà.
Exactement.
Donc, voilà. Merci en tout cas.
Merci à toi.
De m'avoir écouté. Merci, à bientôt. Merci.